Dans Actes 4, au verset 12, que beaucoup de gens connaissent, l'apôtre Pierre déclare sans embâge, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voilà une déclaration claire, nette et précise. Mais comme nous le savons, la plupart des humains qui ont vécu sont morts sans avoir entendu le message de Jésus. Qu'en est-il d'eux? Sont-ils condamnés à jamais? Et serait-ce juste éventuellement? L'Église du Dieu vivant, nous avons publié avec le monde de demain plusieurs vidéos, des articles, notamment M. Meredith, la vérité que presque personne ne connaît. Nous avons des vidéos, des tableaux blancs et même deux brochures qui traitent du sujet. Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut et que se passe-t-il après la mort? Des brochures qui rencontrent toujours un vif succès. Beaucoup de gens découvrent une certaine vérité à travers ces brochures. Et aujourd'hui, donc en ce 8e jour de la Pâque, souvenez-vous dans Néhémie 8, hein, je vous le lis simplement, on en a parlé déjà au moment des trompettes et tout, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour au verset 18, Néhémie 8 au verset 18, en parlant de la fête des tabernacles, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, c'est ce que nous avons fait, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Et c'est la raison de notre présence ici, de notre présence pour célébrer une fête spéciale, très spéciale. C'est la 7e et dernière fête du cycle annuel des fêtes divines, un cycle qui recommencera le mercredi 5 avril 2023 avec la Pâque dans un peu plus de 5 mois et demi. Et au cours du cycle qui s'achève aujourd'hui, durant ces 10-12 mois, nous avons passé en revue le plan de Dieu, notamment à travers nos divers sermons, et nous avons compris et ou revu que le seul espoir de l'homme est la résurrection. Parce que preuve biblique à l'appui, nous comprenons que l'homme est mortel et non ou pas immortel, et qu'il ne peut recevoir l'immortalité comme un don de Dieu que par une résurrection des morts. En outre aussi, pendant toute cette année qui vient de s'écouler, nous avons vu que la Bible révèle clairement qu'il y aura plus d'une résurrection. Le message d'aujourd'hui portera sur la deuxième résurrection, qui est le titre du message, la deuxième résurrection. Dans la Bible, nous savons, nous l'avons compris, nous l'avons découvert, pour certains, il existe un plan ordonné selon lequel des personnes différentes seront ressuscitées à des moments différents. Allons dans 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. La King James dit « chaque homme en son propre rang ». Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous avons donc la qualité des gens qui recevront cette résurrection et le moment de cette résurrection, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous comprenons à travers ces quelques versets que nous avons lus qu'il y a un ordre approprié ou une succession de résurrection. Les vrais chrétiens fidèles seront les premiers à être ressuscités à la vie, ceux qui appartiennent à Christ. Et ils seront ressuscités à l'immortalité lors de la seconde venue du Christ. C'est ce que nous avons vu lors de la fête des trompettes. Toujours le 1 Corinthiens 15, voyez le verset 51. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Et nous savons que 1 Corinthiens 15 a son pendant dans Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 4, qui est le deuxième chapitre de la résurrection, si on peut s'exprimer ainsi. Et 1 Thessaloniciens 4 au verset 16 nous dit, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ceux qui appartiennent à Christ, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. Et là, la question tout à fait légitime et logique. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas ressuscités lors de la seconde venue de Christ? Resteront-ils morts pour toujours? Ou Dieu les ressuscitera-t-il à une date ultérieure? Et reviendront-ils à la vie pour être jetés dans les temps de feu? Qu'en est-il de toutes les multitudes qui n'ont pas reçu le salut? On peut parler des athées ou de tous ceux qui ont vécu sans avoir jamais vu une Bible, qui n'ont pas de Bible et n'ont jamais entendu le nom de Christ ou compris l'Évangile, quand bien même ils auraient des Bibles et connu le nom de Christ ou entendu simplement le nom de Christ. Certains disent que ces multitudes auront une seconde chance, entre guillemets. La vraie question, mais ont-elles vraiment eu une première chance de connaître Jésus comme sauveur? Apocalypse 20, verset 5, commence à nous donner une réponse. Apocalypse 1, verset 5, « Les autres morts ne reverront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Alors, la rédaction de ce verset peut prêter à confusion, mais l'expression « c'est la première résurrection », c'est une parenthèse qui renvoie à ceux qui sont nommés au verset 4, ceux qui sont ressuscités à l'immortalité, on peut le lire, le verset 4, qui est très long, mais je vais juste lire la fin. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque ni sur le front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Cette première résurrection concerne ces personnes. Donc c'est une parenthèse, c'est juste pour éviter la confusion, parce qu'on pourrait penser que la première résurrection sera après que le millénium soit passé. Donc, cette parenthèse parle de ceux qui sont ressuscités à l'immortalité lors de la venue de Christ, de sa seconde venue, ou devenir avec lui des souverains en tant que prêtres ou sacrificateurs et rois sur la terre pendant le millénium, comme on peut le voir au verset 6. À la fin du second, enfin, on peut tout lire, on reviendra plus tard dessus. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Beaucoup de gens pensent à tort, bien sûr, qu'il n'y aura qu'une seule résurrection. Là, nous venons de voir qu'il y a une première résurrection qui est nommée et, en quelque sorte, une seconde, puisque les autres morts ne reviennent pas à la vie. Et ces gens sont formatés par leur éducation, par la l'éducation religieuse qu'ils ont reçue, pensant qu'il n'y aura qu'une seule résurrection lorsque les méchants et les justes se lèveront lors du jugement pour être soit récompensés, soit punis. Mais ce que nous venons de lire dans Apocalypse 20 au verset 5 dénonce clairement cette erreur. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Alors, c'est vrai que cette erreur est soutenue par l'interprétation de quelques versets dans la Bible. Allez dans Acte 24 au verset 15. Acte 24, verset 15. Il parle, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Le verset ne donne pas de calendrier, ne donne pas de timing. C'est avec la compréhension que nous avons par l'Esprit de Dieu que nous voyons qu'il y a au moins 1000 ans qui, assez bas, c'est deux parties du verset. Dans Jean 5, 28 aussi, il y a un deuxième verset qui fait de la confusion. Dans Jean 5, à partir du verset 28. On est dans le verset 29, il dit, « Ne vous étonnez pas de cela. » Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et on peut aussi aller dans Daniel 12 au verset 2, où il parle de la félicité et de l'opprobre pour ceux qui ressuscitent. Mais en fait, la Bible ne dit nulle part que Dieu ressuscitera tous les morts en une seule et même résurrection. L'apôtre Jean, on a vu, a parlé d'une première résurrection dans Apocalypse 26, et Paul la qualifie dans Hébreux 11, 25, notez-le simplement, de meilleure résurrection. Donc, si on parle de première, si on parle de meilleure, c'est que il y a autre chose. Et, bien sûr, cette seconde résurrection est, on va dire, introduite par la phrase de Jean dans Apocalypse 20 au verset 5, « Les autres morts ne reviennent point à la vie. » Alors maintenant, analysons la situation. Puisque tous les morts justes sont ressuscités lors de la seconde venue du Christ, laissant les morts « injustes » entre guillemets dans leur tombe, tous ces morts « injustes » sont-ils éternellement perdus? On a posé la question tout à l'heure. Sont-ils sans aucun espoir d'avoir un jour la possibilité de revivre et d'obtenir l'immortalité? Ces injustes doivent-ils simplement être ressuscités pour que Dieu les jette dans un étang de feu pour y être brûlés? Autre question tout à fait légitime. Que voulait dire Christ dans Jean 5, 29, « Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement ». Des innombrables milliards, et les chiffres sont effarants. Nous sommes 8 milliards pour l'instant. À peu près, nous sommes une poignée de vrais chrétiens. Donc, ça en fait déjà quelques heures. Plus tous ceux qui ont vécu depuis Adam. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'innombrables milliards, de toute confession, voire même sans confession. Les athées dont on a parlé. Toutes ces personnes qui n'ont pas connu le Christ et qui n'ont pas su qu'il est le sauveur de toute l'humanité. ces personnes pourraient-elles être déclarées coupables ou responsables, puis être condamnées car elles n'ont simplement pas reçu cette connaissance vitale? Nous l'avons dit au début du message, il n'y a de salut en aucun autre nom. Et sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné que celui de Christ. Pour que nous soyons sauvés. Nous, les êtres humains, nous ne pouvons être sauvés que si et quand nous apprenons et comprenons que Jésus est notre Sauveur, mort pour nous, et que nous acceptons ce sacrifice suprême en paiement de nos péchés personnels. Le Christ lui-même a déclaré dans Jean 10 au verset 9, je vous le lis simplement, « Je suis la porte ». Les enseignants qui sont dans la salle diront, ça c'est un article défini. C'est pas une porte quelconque, c'est la porte. Le Christ est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quelque sorte, ça revient à dire qu'il n'y a pas d'autre porte par laquelle nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les esprits chagrins ou les personnes qui ont du mal à comprendre ces vérités claires pourraient se dire, mais voulez-vous dire que Dieu ressuscitera les hommes ou les ramener à une vie physique, à une vie mortelle, et leur donner une seconde chance? Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Par contre, les Écritures révèlent clairement que le temps venant, Dieu ressuscitera les morts, entre guillemets, injustes. Ceux qui, sans que ce soit leur faute, ont été trompés, séduits, ou n'ont jamais connu la voie du salut. Et il leur révélera, à ce moment, son plan de salut. Il y a une vérité, une double vérité biblique que nous ne devons jamais, jamais oublier. C'est une vérité fondamentale, une double vérité. Hébreux 6, 18 nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Et Jean 10, 35 nous dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Par conséquent, tout ce que Dieu promet dans sa parole, il le fera. Et je pense que c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Croire en Dieu, croire qu'il tient sa parole. Ben, comprendre un peu ce timing, cette volonté de Dieu, allant dans 2 Pierre 3 au verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand nous prions, nous demandons à Dieu que ta volonté se passe. Voici quelque chose qui montre la volonté de Dieu. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Et sa volonté, donc, en tant que créateur aimant, est que vraiment tous arrivent à la repentance au moment opportun et selon la méthode appropriée. Nous ne faisons pas de prosélytisme parce qu'on ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas convertir les gens. Notre message, c'est un témoignage. Après avoir écouté Pierre qui nous dit cette volonté de Dieu que tous arrivent à la repentance, nous pouvons analyser quelques déclarations de Paul, dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, encore une fois, une expression de sa volonté, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et au verset 5, il va continuer en affirmant, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ces versets vont confirmer du coup, acte 4, 12, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné, et Jean 19, je suis la porte. C'est vrai que c'est, pour beaucoup, c'est difficile à comprendre. Vous avez tous vu dans les films des gens qui envoient des gens brûler pour l'éternité en enfer, etc., etc. On a tous entendu cela. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Christ et moi, on vraiment pour tous les hommes. Et c'est à Dieu qu'incombe la responsabilité d'appeler et d'accorder aux gens la connaissance de la vérité. C'est sa responsabilité, en passant certainement par son Église, par la Bible, mais c'est sa responsabilité d'appeler. La grande majorité de ceux qui ont vécu et sont morts ont été, sans que ce soit de leur faute, privés de cette connaissance qui aurait pu rendre le salut possible dès leur première vie. Mais ça encore, c'est la responsabilité de Dieu. Et donc, il est impératif que Dieu leur donne leur première, pas leur seconde, leur première réelle opportunité d'entendre et de comprendre et de suivre la voie de vie divine menant au salut. Ce que nous avons, nous, maintenant. Et comment s'y prendra-t-il? En les ressuscitant des morts à une nouvelle vie physique lors d'une deuxième résurrection. Sinon, ils sont là sous terre pour l'instant. Et dans le monde chrétien, je pourrais mettre des guillemets, des millions croient à tort que lorsqu'une personne meurt dans le péché, elle est perdue à jamais. On leur a inculqué cette connaissance comme étant une vérité. Et nombreux sont ceux qui se sentent obligés de veiller à ce que le Christ soit prêché aux païens du monde entier, parce qu'ils pensent que si ces païens meurent dans le péché, ils seront privés à jamais de salut. Jean 5, 29, on a dit, amène de la confusion. Mais que voulait dire le Christ dans Jean 5, 29 et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et d'autres versions vont encore traduire ce mot pour apporter plus de confusion en traduisant ce mot par condamnation. Donc certains seront, d'après la Crampon, d'après la Martin, d'après l'Osterwald, ressuscités pour la condamnation. Donc quelqu'un vous dira, oui, mais j'ai lu ça dans la Bible. C'est logique. Mais il nous appartient, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de comprendre vraiment son plan. Que signifie être ressuscité pour le jugement? Parce que la plupart des chrétiens dont on a parlé se méprennent sur ce point, parce qu'ils associent le terme « jugement » et « sentence prononcée ». Cette sentence qui devrait récompenser les justes ou condamner les coupables. Mais c'est un faux concept. Le terme jugement peut vouloir dire sentence, mais dans ce contexte que nous analysons, ce n'est pas le cas. Pour s'en rendre compte, allons dans 1 Pierre 4 au verset 17. 1 Pierre 4 au verset 17. Nous lisons, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce moment a commencé il y a à peu près 2000 ans, quand Pierre écrivait ces lignes. Que voulait-il dire? Voulait-il dire que la condamnation a déjà commencé dans la maison de Dieu? La maison de Dieu, nous le savons, c'est l'Église. Ça n'aurait pas trop de sens de dire que vous êtes appelé par Dieu à connaître sa vérité, à la mettre en pratique, et votre condamnation commence. Non, notre jugement commence. Parce que Pierre faisait plutôt référence à ce que Dieu fait en nous jugeant, en nous évaluant maintenant. C'est une évaluation qui se passe dans nos vies maintenant. Nous lui appartenons, nous l'avons vu, nous sommes censés être ressuscités à la première résurrection. Donc les vrais chrétiens sont évalués. C'est ce que Pierre entendait, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais il nous faut, et là je vais ouvrir une grande parenthèse, pour que nous puissions vraiment avoir à l'esprit comment nous sommes engagés au niveau du baptême. Notre chance, c'est maintenant. Et nous n'en aurons pas une autre. L'apôtre Paul est clair dessus. Allons dans Hébreux 2, dans le livre des Hébreux, on va y rester. Dès le chapitre 2, dans ce livre, à plusieurs reprises, il nous lance des avertissements. Hébreux 2, au verset 2, il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Montrant que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la connaissance que nous recevons. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'offre de salut qui nous est faite. Nous ne devons pas la négliger. Au chapitre 6, toujours du livre des Hébreux, il va un peu plus loin, à partir du verset 4. Il nous dit, car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. On vient de célébrer la fête. On a parlé de l'avenir, de ce siècle à venir, de ce monde à venir. Et au verset 6, et qui sont tombés. Et là, ça peut prêter encore à la confusion, parce qu'on peut tomber et se relever. Mais la King James en français nous dit, s'ils abandonnent. Là, c'est pas tomber, mais c'est rester par terre. Et si clair, on dira, ne pas avoir la volonté de se relever. Donc, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Là, la King James parle de restaurer. Autrement dit, qu'il y a du travail derrière. Donc, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Encore, c'est vrai, l'ignominie, c'est pas un terme qu'on emploie tous les jours. D'autres versions nous parlent de honte évidente, dans la King James, par exemple. Et la seconde 21 nous dit que nous déshonorons publiquement notre Sauveur si nous tombons sans nous relever, si nous abandonnons en quelque sorte. C'est vraiment des versets forts à méditer. Donc, Paul va encore plus loin dans Hébreux 10. Là, c'est aller crescendo. Hein. Il nous a parlé d'échapper si nous négligeons un salut, si vous un salut. Il nous donne des conditions si nous tombons et ce qui se passe. Et là, on va à la conclusion de son cheminement, Hébreux 10 au verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement, d'accord? Mais dans ce cas de figure, c'est le verdict. C'est la sentence, puisqu'il dit, mais une attente terrible du jugement et la ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pour résumer cette parenthèse, Dieu tient chaque vrai chrétien personnellement responsable de ses actions et juge actuellement chaque croyant en fonction de sa parole. Allons dans Jean 12 au verset 48. C'est le Christ lui-même, pour ceux qui ont des Bibles où c'est écrit en rouge. Jean 12, verset 48. Le Christ dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas par mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, vous savez, dans le monde du travail, il y a des codes à ne pas en finir, code du travail, code de ceci, code de cela. On a un code de vie qui est la Bible et c'est elle qui nous jugera au dernier jour. On peut pas être plus simple, plus clair, plus limpide. Et c'est pour ça qu'il est demandé au moment du baptême aux gens s'ils acceptent le Christ, s'ils acceptent de marcher en fonction de toute la connaissance qu'ils ont reçue. Et c'est pourquoi on n'est jamais pressé non plus avant que la personne ait suffisamment de compréhension pour accepter Christ dans sa vie, se conformer à cette vie. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important. Et là, je referme la parenthèse. Là, nous sommes concernés. Mais cette grande majorité de l'humanité dont on a parlé, jusqu'à aujourd'hui, elle ne comprend pas ou ne croit pas la vérité de Dieu. Apocalypse 12, verset 9, que nous connaissons tous, c'est Satan a séduit la terre entière. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est la responsabilité de Dieu de permettre à ces milliards de personnes séduites de ne plus l'être du tout et de leur donner une opportunité de salut, car il ne veut pas que quiconque périsse. On l'a vu tout à l'heure. Et ça aussi, ce n'est pas, on va dire, une doctrine de Nouveau Testament seulement. Allez dans Ézéchiel 33 au verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mouillez-vous, maison d'Israël? Et ce simple verset, qui prend tout son sens, quand on comprend quelle était la mission d'Ézéchiel. Si vous avez encore le temps, ou prenez le temps quand vous serez à la maison, vous voyez l'émission de M. Bouchu, Alerte à la Nation. Mais on a d'autres émissions qui viennent aussi, qui parleront précisément de cette mission d'Ézéchiel. Et M. Vetrache, hier, a effleuré rapidement le sujet. Allons dans Ésaïe 25. Allons dans Ésaïe 25. À partir du verset 6. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Il nous a créés et il veut, comme on l'a vu tout à l'heure, que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance, à la connaissance de la vérité. Et ce verset est vraiment très intéressant parce qu'au verset 6, on nous dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Et vous pourrez pas imaginer le nombre de personnes qui pensent que Dieu, c'est le Dieu d'Israël, point barre. Dans tous les commentaires Facebook qu'on a analysés pour les supprimer ou porter des réponses et tout, il y a très souvent, ça c'est pour les Juifs, ça c'est pour Israël, ça c'est pour les Juifs, ça c'est pour Israël, notre liberté est en Christ, etc. Ils savent pas qui était le Dieu de l'Ancien Testament, que Christ était le Dieu de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que c'est une confusion totale. Beaucoup de gens s'interrogent, pourquoi vous parlez pas de la guerre dans telle région, dans telle ceci? Ils comprennent pas que c'est universel. Et que l'amour de Dieu est pour tous les hommes. Quand il dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre les nations. C'est cette fête aujourd'hui qui représente un peu ce geste de lever le voile, de le déchirer. Dans d'autres versions, c'est l'enlever, le déchirer, le détruire. Ce voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Toutes les nations sont concernées, pas seulement Israël, pas seulement la maison d'Israël. Et quand le Christ dit que certains ressusciteraient pour être jugés, il voulait dire qu'ils sortiraient de leur tombe, de leur sépulcre, à une époque au cours de laquelle ils apprendraient la vérité et auraient l'occasion de s'y conformer, comme nous, vous et moi, nous avons cette possibilité aujourd'hui de découvrir cette vérité, de l'accepter et de nous y conformer. Mais à ce moment, dans la vie de tout un chacun, comme disait la King James, chaque homme, Dieu prendra alors une décision, il prononcera un verdict pour chacun en fonction de ce que sera sa conduite au moment où il connaîtra cette vérité. Le verset de Jean 12, 48 que nous avons vu tout à l'heure, si la Bible est d'actualité aujourd'hui, Dieu ne change pas, Christ ne change pas, cette même Bible sera le manuel du bon chrétien, on va dire, pendant le millénium et aussi après la deuxième résurrection. Et c'est ces mêmes paroles qui vont juger tout un chacun, comme le Christ l'a dit. Et ça aussi, beaucoup de gens disent la Bible, mais sans percuter sur des faits que le Christ lui-même prononce. Et certains seront étonnés d'apprendre que Jésus a fait un certain nombre de déclarations dans lesquelles il dit que les peuples de Sodome et Gomorre, de Tyr, de Sidon, de Ninive, et de ceux qui vivaient à sa propre époque, à lui, à celle du Christ, seront ressuscités en même temps pour le jugement. Et qu'il sera fait preuve de miséricorde envers tous. Ça, c'est vrai que ça peut paraître... Les gens sont tellement formatés que tu iras brûler en enfer, ou bien certains parlent de purgatoire en attendant qu'on se repente ou pas. Ce n'est pas biblique. Dieu fera miséricorde à tous. Et le Christ même nous avertit, à travers les propos que nous allons lire, il nous dit que les villes païennes trouveront leur période de jugement plus supportable que ceux qui ont personnellement entendu les enseignements de Christ lui-même et n'ont pourtant rejeté lui et son évangile. Allons dans Matthieu 10 au verset 15. On va voir la première déclaration du Christ, enfin, une des premières déclarations du Christ à ce sujet, Matthieu 10 au verset 15. Ah, c'est générique, on va dire. Et là, quand il envoie ses disciples, etc., ses apôtres déjà, et il leur donne des consignes dans chaque ville, etc., et il leur dit au verset 15, je prends le verset 14, il dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Nous avons une série d'articles qui traitent du sujet. Vous pouvez rechercher en tapant Sodome, Tyr, Sidon. Vous trouverez des articles vraiment intéressants. Là, on était dans Matthieu 10, donc on va dire que c'est générique, c'est une ville quelconque. Et là, à partir de Matthieu 11 au verset 21, on va prendre le verset 20, il dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elle ne s'était pas repentie. » Et le verset 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » C'est pourquoi, au verset 22, je vous dis qu'au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles que Dieu était fait au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que Troie. Souvenez-vous dans Genèse 18, parce que Tyr, Sidon, ça ne nous parle pas trop, mais Sodome, oui. Sodome. Alors, si vous voulez plus de détails sur Tyr et Sidon, lisez la brochure, la Bible en réalité ou fiction. Et là, vous allez trouver, il y a un petit paragraphe assez intéressant qui parle de l'histoire de Tyr et de Sidon pour prouver la véracité de la Bible. Mais Sodome, on connaît toute l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham a négocié avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relire. Même si on connaît l'histoire, relire avec cette perspective d'aujourd'hui. Et il n'a pas été trouvé dit juste dans la ville. Et là, Dieu dit, vous voyez, ces gens pervers là, ils seront traités moins rigoureusement que Capernaüm, etc., etc. Parce que j'ai fait des miracles chez vous et vous vous êtes pas reparti. Vous êtes même peut-être pas interrogé sur ce qui se passait. Allons dans Matthieu 12, au chapitre d'après. On va aller un tout petit peu plus loin pour compléter le tableau. Verset 41, il dit, les villes, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Et c'est ça qui nous prouve que ces gens de Sodome, de Tyr, de Sidon, de Ninive sont ressuscités en même temps que les gens de l'époque du Christ avec cette génération à laquelle ils parlaient. Ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. Et au verset 42, il dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, le royaume de Séba, de Saba, comme on l'appelle, S-A-B-A ou Séba ou de la reine du Midi, si vous avez une carte de géographie en tête, vous allez regarder plus tard, ça correspondrait à peu près à l'actuel Yémen. Donc, dans la corne de l'Afrique, là, tout au bout de la mer Rouge. La distance à vol d'oiseau qui est au Jérusalem, c'est 2000 kilomètres. Alors, il peut être remonté, mais comme elle avait, je pense, une grande caravane et tout, remonter la mer Rouge par bateau, c'était peut-être pas possible, mais traverser toute l'Arabie, donc c'est vraiment l'extrémité de la péninsule arabe, et il y a à peu près 3150 kilomètres pour venir voir ça nous-mêmes. Pour l'entendre. C'est vraiment, la distance est impressionnante. Et imaginez ce travail pour découvrir Salomon et lui dire, j'avais entendu parler de toi, mais en quelque sorte, maintenant mon œil t'a vu. En fait, faisant le parallèle avec Job. Mais tous ces gens, donc, se repentiront, hein, que ce soit Sodome, Tyr, Sidon, cherchaient à étudier ce qui s'est passé à Tyr et à Sidon à travers vos études personnelles. À Ninive, on connaît plus parce que c'est Jonas, c'est l'histoire de Jonas. Et ça me permet aussi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand le Christ parle lui-même de quelqu'un, il a parlé de Job, parce qu'il y a des gens qui doutent de l'existence de Job, qui pensent que c'est un mythe. Quand il parle de Jonas, une histoire de poisson qui avale quelqu'un, etc., il parle de Jonas. Je peux pas me dire chrétien et ne pas croire quand il me parle de Jonas lui-même, le Christ. Je ferme la parenthèse. Mais ce qui est important, c'est intéressant, on pourrait dire, oui, c'est dans le Nouveau Testament seulement. Mais ça, ce n'est pas une nouvelle doctrine que le Christ inventait lorsqu'il a parlé de la résurrection des peuples de Sodome et de Gomorre. Allez dans Ézéchiel 16. On y va tout le chapitre à la maison. Et une grande partie du chapitre va concerner le peuple de Jérusalem. dès le verset 2, nous voyons Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Il va détailler les abominations et sa décoiffe. Et au verset 46, il va leur dire, ta grande sœur qui demeure à ta gauche, donc Ézéchiel 16, 46, ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et la petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations. C'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Le peuple de Dieu. Et on vient de voir ce qui s'est passé à Sodome. On vient de l'évoquer en tout cas. Et Dieu dit, ben voilà, vous êtes allé encore plus loin que. Et enfin, vers le verset 53, Ézéchiel va prophétiser le moment où les habitants de Sodome et de Samarie et ceux de Jérusalem seront tous sortis de leur captivité de la mort et recevront enfin le salut. Verset 53, verset d'Ézéchiel 16, « Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs. » Deux choses importantes. Sodome, on sait qu'ils ont été rayés de la carte par le feu descendant du ciel. Donc, ils ne sont pas captifs en quelque part. S'ils sont captifs, ils sont captifs de la mort. Et qui plus est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient captifs au milieu des leurs. Autrement dit, ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette génération. C'est cette deuxième résurrection, c'est un ensemble qui concerne l'humanité. Donc, Sodome et Gomorre, ils ont été retenus captifs dans la tombe pendant près de 4000 ans déjà. Mais, grâce à la mort et à la résurrection du Christ, tous les prisonniers de la tombe seront libérés. Tous les prisonniers de la tombe, y compris Sodome, y compris Gomorre et les autres qu'on a cités. Alors, Éphésiens 4 au verset 8, il faut le lire dans une autre version, si on lit dans la version second ou Neg 79, etc. On nous dit que, étant monté en haut, donc lors de sa résurrection, on nous dit que Christ a emmener des captifs. La version King James, Neuchâtel et Darby nous disent, étant monté en haut, il, Jésus-Christ, a emmené captive la captivité. Donc, il prend l'amour en captivité en quelque sorte. C'est ça qui est intéressant. Et il a donné des dons aux hommes. Et il le fera de même, il fera de même pour toute l'humanité, en temps voulu, en ressuscitant tous ceux qui sont dans les sépulcres, comme on a vu dans Jean 5, 28, entendons sa voix, etc. Dieu va ressusciter les peuples de l'ancienne Sodome, de la Samarie et de Jérusalem, et le verset 55 d'Ézéchiel 16 que nous étions en train de lire, le verset 55 dit, « Tes sœurs Sodome et ses filles retrouveront leur situation d'avant. » Pour l'instant, ils sont cendres. Ils sont morts et ils trouveront leur situation d'avant. Et ses filles retrouveront leur situation d'avant. Toi et tes filles aussi, vous retrouverez votre situation d'avant. Autrement dit, on va le voir dans un autre chapitre que Dieu va les replacer dans le pays où ils vivaient autrefois. Parce qu'Ézéchiel a fait cette prophétie sur Sodome et Samarie, etc. Mais il a également prophétisé ailleurs dans son livre une résurrection prochaine pour tous les Israélites. Et c'est ce que les gens connaissent. Ézéchiel 37, et ils voient que Dieu s'adresse à Israël. Ils disent, ça c'est pour Israël. Alors que quelques chapitres plus tôt, on l'a vu, Sodome, Samarie seront ressuscités aussi. Donc, si vous allez dans Ézéchiel 37, on ne va pas tout lire parce que c'est un chapitre qui est bien connu. Je suppose que M. Weston en parlera cet après-midi. Vous connaissez la fameuse vallée d'ossements desséchés. Puis, au verset 11 à 13, donc ça c'était les versets 1 à 10, la description très, très particulière de cette vallée d'ossements desséchés.
Oui.
Verset 11 à 13, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc au verset 12 et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. On ne peut pas inventer autre chose que de lire clairement qu'il y a une résurrection des sépulcres, qu'on les sort des sépulcres et qu'ils reviennent. C'est pas des squelettes qui reviennent. Hein. Vous pouvez relire la peau, la chair, les nerfs, tout ça qui pousse, qui repousse sur ces êtres et le souffle de vie qu'ils reçoivent pour qu'ils soient ressuscités. Et au verset 14, qu'est-ce qu'il dit au verset 14 de Ézéchiel 37? Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Recevoir l'Esprit de Dieu en eux, c'est leur donner la condition préalable au salut. Comme vous et moi, ou ceux qui l'ont reçu, qui sont baptisés, ont reçu lors de leur baptême. C'est ce dépôt de la vie éternelle, en quelque sorte, que nous recevons. Donc, Dieu promet qu'il mettra son esprit en eux. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. L'apôtre Paul, lui aussi, a prophétisé une résurrection à venir pour l'Israël charnel. L'Israël charnel, on va comparer à l'Israël spirituel qui est l'Église. Allons dans Romains 11, s'il vous plaît. Romains chapitre 11. À partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et au verset 7, il nous donne une explication. Crois donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Question légitime, pourquoi? Réponse, verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, et on pourrait rajouter, rendant possible le salut des païens, donc que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Et la version Sterval nous dit, car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur rappel sinon une résurrection des morts? Ça aussi, c'est intéressant. Oui, ils vont être ressuscités des morts et recevoir la vie par le Dieu qui les aime et qui aime toute l'humanité. Et au verset 25, on appelle cela un mystère. Toujours dans Romains 11, au verset 25, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. C'est terrible de voir le nombre de personnes qui pensent que tout est que pour Israël. Quand on lit un passage comme ça, tout est clair. C'est pour l'humanité entière. Israël est un peuple choisi. On l'a vu au départ, au verset 1, ce peuple qu'il a connu d'avance. Mais ça, ce salut est offert à toute l'humanité. Autrement dit, si on reste sur Israël, Dieu a décidé de n'appeler et de ne choisir que nombre l'unité d'Israélites. Je ne parle pas d'Israéliens, du pays d'Israël. Mais nous connaissons, nous parlons des Israélites, des descendants d'Israël. Il dit, donc Dieu a décidé de n'appeler, de ne choisir qu'un nombre limité d'Israélites de nos jours. Il ne cherche pas à sauver tout Israël maintenant. Il appelle donc les Israélites qu'il veut, mais permet aux autres de rester aveugles, séduits ou endurcis, afin qu'ils puissent appeler un certain nombre de païens pour accomplir son dessein. C'est sa volonté de travailler comme ça. Donc, Israël, en partie endurci, le salut ouvert aux païens, faire un certain travail pour accomplir le dessein de Dieu. Et le verset 30, toujours de Romains 11, Paul qui dit, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. » Il s'adresse aux Romains, là, n'oubliez pas. Donc, aux païens. Donc, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, celle d'Israël, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et quand il comprend ça, parce que c'est pas toujours évident à comprendre. Si c'est un Dieu d'amour, pourquoi il permet que... Il faut vraiment avoir la vue d'ensemble du plan de Dieu pour répondre à cette question et pour la comprendre et l'accepter. Parce que même des fois, on a du mal un petit peu à accepter quelque chose qui vient de Dieu. Et au verset 33, Paul, il va louer Dieu quand il comprit ce mystère du grand plan directeur de Dieu en disant « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements soient insondables et ses voies incompréhensibles. » Donc, Dieu n'essaye pas de sauver le monde entier maintenant. Au contraire, Apocalypse 12:9, la terre entière est séduite, il permet que Satan séduise avec ses faux enseignements. Et ça permettra de prouver tant à Satan qu'à toute l'humanité que la voie de Satan produit de mauvais résultats. C'est la meilleure solution, je l'espère, et après vous comprendrez quand vous aurez l'opportunité de faire votre choix, comme vous et moi nous l'avons pu le faire. Avec ce contexte de la deuxième résurrection que nous avons survolé, nous avons dit tout à l'heure que nous étions dans un jour de fête. On l'a lu dans Néhémie 8. Et la question est toute logique aussi. Qu'est-ce donc que le jugement d'une grande trône blanche que symbolise ce dernier grand jour? Petit rappel, la résurrection des justes, des saints, si vous voulez, aura lieu lors de la première venue du Christ, ça on l'a vu. Celle des injustes ou des non-sauvés pour l'instant, lors du jugement du grand trône blanc après le millénium. Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que le millénium soit accompli, nous dit Jean dans au verset 5 du chapitre 20. Dieu est grand, miséricordieux, on l'a dit, il est aimant, il ne veut que quiconque périsse, il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et à une véritable repentance. Je ne veux pas que le méchant meure, il change de conduite, il se repente, qu'il change de conduite et qu'il vienne. Mais, et c'est là que ça nous dépasse, Dieu sait qu'il est préférable que la plupart des gens parviennent à la connaissance de la vérité dans un monde meilleur, dans un monde meilleur que le nôtre. C'est son choix d'appeler certains et pas tous. C'est pourquoi ces personnes seront ressuscitées lors de la deuxième résurrection. Une résurrection à une existence mortelle, charnelle et terrestre, contrairement à la première résurrection, la meilleure résurrection qui est, elle, une résurrection à la vie éternelle. ça la différence, c'est ça notre privilège. Si nous respectons un petit peu ce que nous avons vu dans la grande parenthèse de tout à l'heure, ne pas rejeter Dieu, de marcher avec lui, de ne pas pécher volontairement, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, comme le précise Apocalypse 20, au verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ça, ça fait la différence avec ceux de la deuxième résurrection qui seront ramenés à la vie, une vie physique, avec la possibilité de d'avoir le salut, de recevoir le salut, mais aussi de le rejeter. Dieu n'est pas Dieu de rebond, il donne à tous le libre arbitre. Et ces gens, on pense tous qu'ils feront le bon choix, ça c'est à espérer pour eux en tout cas. Et cette deuxième résurrection, c'est une résurrection physique, charnelle et terrestre. Allons dans Apocalypse 20 toujours. Certains versets vont décrire cette deuxième résurrection. Monsieur Vecrache en a parlé rapidement. Il dit, « Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis au verset 11, qui était assis dessus, et je vis les morts, les petits et les grands, debout devant Dieu. » Si on parle de toute l'humanité, il y a de fortes chances que nos os ne soient plus que poussière, ou qu'on est complètement disparu, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, hein, c'est biblique aussi ça. Donc si on les voit debout, c'est qu'ils ont été effectivement ressuscités. Les livres, ça aussi ça a été dit, en grec c'est biblios, les livres de la Bible, qui furent ouverts à leur compréhension, verset 12. Ça signifie que ceux qui seront ressuscités à ce moment-là auront la possibilité de comprendre, d'avoir accès à la connaissance et à la compréhension. À cette connaissance indispensable dont Paul a parlé. Ils arrivent tous à la connaissance et qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cette vérité qui leur sera révélée. Et aussi, le livre de vie est ouvert afin que leur nom puisse y être inscrit. Lorsque chacun, faisant le bon choix, se repentira de ses péchés, acceptera le Christ comme sauveur personnel et recevra par le baptême le don du Saint-Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, commencera leur période de jugement, d'évaluation en fonction de la parole qu'ils auront embrassée, qu'ils auront comprise. Ça, c'est important de comprendre que c'est pas instinctif, toi, allez hop, par là, toi, par là, non. Ils auront une période, on estime à 100 ans, de vie, pour mettre en pratique les commandements de Dieu, pour vraiment apprendre à vivre, surmonter leur nature charnelle, qu'ils auront quand même si Satan n'est plus là pour influencer, ils auront cette nature charnelle qu'ils auront à surmonter, et ils seront à ce moment-là évalués par rapport à la parole, que tout comme nous aujourd'hui. Ça, c'était le verset 12. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Ainsi, nous voyons que le reste des morts, les autres morts, dont parlait le verset 6, on les voit ressuscités à la vie, tenant debout devant Dieu pour être jugés ou autrement dit évanouis, mais pas pour être condamnés. On apprend cette notion de condamnation avec le mot jugement. Il y a beaucoup de gens qui supposent cela faussement. Alors Dieu y jugera ces morts, entre guillemets, injustes, et ils seront donc à ce moment-là ressuscités à la vie, comme ils nous jugent en ce moment, comme ils jugent sa propre maison, son église, ce qu'on a vu dans 1 Pierre 4:17 et dans Jean 12:48. C'est exactement la même possibilité qu'ont ces personnes. Et ce livre de vie qui est ouvert, ça permettra qu'ils aient leur nom inscrit pour avoir accès à la vie éternelle. Parce que, tout comme nous, en ce moment, ils devront le vouloir et agir en conséquence. Personne ne sera dans le royaume par accident. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut le vouloir et agir en conséquence. La porte est ouverte. Le Christ nous dit qu'il est la porte, qu'il nous laisse un exemple et on n'entrera pas dans le royaume par accident. Oui, je connais. Un tel, il est à l'intérieur. Ça marche pas. D'accord. Il est à l'intérieur. Il m'a dit de venir. Mais ça marche pas comme ça. Donc, c'est vrai que ces gens auront cette même possibilité. C'est ça qui fait de la grandeur du plan de Dieu. C'est vraiment passionnant de comprendre ce plan directeur. Le plan directeur que Dieu met en œuvre ici-bas parmi les hommes mortels. Se reproduire à travers nous, nous accepter dans sa famille, dans son éternité, dans son univers. C'est quand même quelque chose de déboustocant. Donc, avant de conclure, un petit rappel que nous avons tout récemment célébré la fête des trompettes, qui symbolisait le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, retour qui déclenchera la première résurrection réservée aux saints qui se seront qualifiés. Mais d'innombrables milliards de personnes doivent encore être ramenées à une vie mortelle pour avoir leur première opportunité de recevoir le salut. C'est la signification de la fête du dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui. On a parlé de Tyr, de Sidon, de Ninive, de bien d'autres encore. Tout ça pour étoffer ce plan de salut. Et je vous laisse imaginer, en tout cas moi ça m'arrive d'essayer de penser, la joie que sera cette possibilité que nous aurons en tant qu'être devenu spirituel, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à travers cette première résurrection, ou si nous sommes vivants à travers ce changement de mortel en immortel, de servir en aidant ces personnes à marcher dans les voies de Dieu, afin de pouvoir nous rejoindre dans la famille de Dieu. Là, pour l'instant, nous prêchons, nous annonçons cette bonne nouvelle, mais nous sommes encore chérissants, tout comme eux, partageant le même sort, entre guillemets. Mais là, nous serons de l'autre côté de la barrière en leur tendant la main, en les aidant, en leur disant « Oui, c'est bien moi ». Et ça, si vous avez des proches, c'est impressionnant. On a tous un papa et une maman, donc ça fait deux, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc. Et c'est impressionnant quand on essaie de réfléchir à cette, ce qu'on appelle un arbre généalogique, mais qui devrait s'étendre à l'infini comme ça, mais finalement qui va se refermer sur Noé, déjà, les huit qui sont sortis de l'arche, et après encore se refermer sur Adam et Ève. Mathématiquement, j'ai du mal à imaginer la forme pour cet arbre généalogique, puisqu'on est parti d'un couple et nous sommes aussi nombreux. C'est clair qu'il y a eu des croisements, qu'il y a, mais c'est à perdre des cheveux que je n'ai pas. Mais enfin, c'est vraiment impressionnant de penser à tout ça, à tous ces gens, à revoir notre lignée depuis Adam, tonton un tel, tati un tel, etc. De les aider, ces gens-là, c'est notre mission qui est décrite dans Ésaïe 30-20, déjà pour le millénium où nous serons cette voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». On pourra leur montrer les expériences que nous avons eues. Déjà dans le millénium, cette mission continuera certainement dans cette période du jugement du grand trône blanc où ces gens, ces milliards d'êtres auront certainement besoin d'aide et on recevra aussi certainement l'aide de tous ceux qui se feront qualifiés pendant le millénium parce que eux aussi, ils auront un taf, ils auront un travail. Nous, on est en train de signer notre CDI là maintenant. Ça, c'est important de comprendre. Enfin, je sais pas si le terme existe au Québec, c'est le contrat à durée indéterminée. Ça, c'est vraiment un bon job, ça. C'est très bien payé en plus. Très, très, très bien payé. En servant Dieu, on est payé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Nos amis, nos proches, nos voisins, comme ça a été dit dans la sermonnette, le voisin juste d'en face, toute notre généalogie, depuis Adam, depuis Noé, comme on a dit, vraiment de connaître tous ces gens, de pouvoir les aider, de pouvoir leur montrer que nous sommes la preuve vivante que Dieu ne ment pas, qu'il agit et qu'il promet et qu'il agit. Finalement, nous ne pouvons que louer Dieu comme Paul de cette compréhension, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand Dieu nous donne cette compréhension, Paul disait aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et j'ai pas aimé le mot incompréhensible, pas aimé, mais il me gênait. Donc, je suis allé chercher une autre version, et c'est la King James française qui me dit: Oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements loin d'être découverts. Ça veut dire qu'on a encore énormément à apprendre. Et là, aujourd'hui, avec cette fête qui achève le grand plan directeur de Dieu, nous allons recommencer dans 5 mois et demi avec ce nouveau cycle pour encore et encore nous habituer à cette idée et vraiment travailler à cela. Donc, je vous souhaite une excellente journée.